J'ai souvent eu du mal à comprendre, même si je respecte la démarche de ces personnes-là, bien sûr, mais à comprendre des chrétiens qui se convertissent au bouddhisme. Vous le savez, le bouddhisme est plus qu'une religion, c'est plutôt une philosophie. Et dans cette philosophie, il s'agit progressivement d'anéantir au fond la souffrance qui vient du désir, ce qui n'est pas faux du reste, parce que nous désirons quelque chose et que nous ne l'avons pas, eh bien ça nous cause ce que les psychologues appellent la frustration, qui est une certaine forme de souffrance. Et donc dans cette philosophie asiatique, il est au fond tout un cheminement intérieur qui fait que progressivement, la personne humaine apprend à ne plus rien désirer pour arriver dans un état de tout à fait de, comment on peut dire, de stabilité, de paix intérieure, qui fait que progressivement, elle va atteindre de réincarnation en réincarnation le nirvana. Pourquoi ça me surprend que des chrétiens fasse cette démarche? Parce que j'allais dire, c'est juste le rebours de ce que Jésus est venu apporter sur terre. Jésus, quand il rencontre quelqu'un, c'est tout à fait l'inverse. Il ne vient pas éteindre son désir, il vient au contraire le rallumer, il vient l'encourager, il vient le réveiller. Réveillez-vous, ne soyez pas somnolents, nous dit l'Écriture aujourd'hui. On le voit très clairement dans le récit de la Samaritaine où cette femme progressivement, eh bien, avec son désir de bonheur, souvent difficilement trouvé, rencontré, puisqu'elle avait 5 maris, nous dit l'Écriture, eh bien, on voit que Jésus progressivement l'amène à l'adoration et elle se pose la question où doit-on adorer et Jésus vient réveiller son désir de bonheur. La même chose avec Zachée, alors que son désir de bonheur était comme tari avec l'accumulation des biens, eh bien il réveille son cœur pour pouvoir donner le meilleur qu'il a en lui-même. Je rendrai jusqu'à 4 fois ce que j'ai pu voler et tout ce que le tort que j'ai fait, eh bien j'essayerai de le réparer. Notre religion est une religion du désir. Est une religion du désir et, puisque nous sommes au cœur d'un week-end famille, c'est important aussi dans l'éducation des enfants d'éveiller ce désir. Vous vous rappelez peut-être d'un film déjà un peu ancien qui s'appelait L'Élu. Dans ce film-là, c'est dans une famille juive, il me semble, eh bien, le père, face à un fils très doué, de beaucoup de grâce, beaucoup de dons intellectuels, une humanité très riche, mais avait décidé, ce père, de ne pas adresser la parole à son fils, parce qu'il trouvait que, d'une manière ou d'une autre, cette humanité très riche l'empêchait d'aller vers le Seigneur. Et à la fin du film, on voit, c'est une souffrance vraiment dans le cœur de ce fils de ne pas entendre la parole de son père, ce mutisme paternel qu'il ne comprend pas. Et à la fin du film, on voit le père qui explique. Il explique, il dit, au fond, j'ai voulu creuser en toi une blessure pour que tu puisses te tourner vers Dieu. Ça peut paraître cruel à première vue, mais je trouve ça très beau d'une autre manière. Ton humanité si riche aurait pu faire que tu te contentes de toi-même et de tes dons naturels, sans te tourner vers le Seigneur, sans avoir le désir de l'au-delà, sans avoir le désir de la communion avec le Très-Haut. Oui, frères et sœurs bien-aimés, ce temps de l'Avent est de très loin le temps du désir de la femme qui attend la venue de l'enfant, évidemment, mais le désir de cet avènement du Seigneur que nous allons contempler dans la crèche le jour de Noël. Où en sommes-nous du désir de voir Dieu? Et où en sommes-nous de la transmission, puisque vous, comme famille, vous participez à nos retraites, de la transmission et de l'éveil du désir dans le cœur des enfants? Parce que, et c'est la différence aussi avec les personnes qui ne croient pas à l'au-delà, Lorsque l'on met un enfant au monde, on ne le met pas simplement pour cette vie terrestre. On le met au monde pour l'éternité. Et on sait bien que, au fond, la finalité de sa vie va être la contemplation de Dieu. Et comme c'est important d'éveiller ce désir chez l'enfant, progressivement, peut-être pas de façon si difficile que dans le film dont j'ai parlé, mais de faire que l'enfant ne soit pas un comblé, vous voyez, l'enfant roi à qui on donne tout de suite. Le fait qu'il garde aussi un désir, quelque chose qui le pousse en avant, parce que c'est ce désir-là qui le poussera aussi à réaliser ses projets. L'homme comblé ne dure pas, dit le psaume. L'homme comblé ne dure pas, il ressemble au bétail qu'on abat. Voilà, il est repu. Et on voit bien que notre société, elle nous gave bien plus qu'elle nous nourrit. Elle veut faire de nous des repus, des personnes qui n'attendent plus rien, qui sont tout à fait satisfaits du matérialisme ambiant et de cette accumulation de biens, comme Zachée dans l'Évangile trouvait que dans cette accumulation du bien mal acquis, eh bien, il allait trouver le bonheur. Faisons attention, nous-mêmes, de ne pas tomber dans cette attitude de repus, d'autosatisfaction, autosatisfaction de nous-mêmes par l'orgueil, mais aussi autosatisfaction par l'accumulation des biens matériels. Quelle place laissons-nous au manque dans notre vie? Parce qu'au fond, et c'est vrai, le désir vient du manque. Du manque qui nous pousse à aller de l'avant. Notre père fondateur, le père Lamy, nous dit à plusieurs reprises, « Je ne suis heureux que quand il me manque quelque chose. » Et l'esprit de pauvreté qui traverse le temps de l'avant, et on le sait bien, cet esprit de pauvreté qui va faire que je vais progressivement me tourner vers Dieu, m'appelle moi-même à laisser une place au manque dans ma vie, à ne pas chercher tout de suite à combler les choses, à répondre à mon désir immédiatement, mais à laisser, c'est toute une ascèse personnelle, une place à ce que Dieu seul va pouvoir me donner, c'est-à-dire cette communion, et à refuser d'être comblé par l'autre. Parce qu'au fond, il y a une fragilité, ou un piège, on peut dire, dans l'amour matrimonial, et puis même dans l'amitié, c'est vouloir demander à l'autre ce que Dieu seul peut donner, c'est-à-dire nous combler. Alors, on va demander à l'autre de nous donner ce bonheur, cette plénitude, et il n'est juste pas en ses moyens, en sa possession, de donner ça. Seul Dieu peut nous le donner. Comme c'est important de nous laisser interroger, de dire, voilà, par exemple, le désir de salut. Est-ce qu'on a pris conscience à quel point on a besoin d'être sauvé? Parce que, et on voit bien avec les consciences qui s'obscurcissent, qui progressivement baissent dans un niveau d'acuité, eh bien, on ne voit même plus le péché. Le péché lui-même paraît comme quelque chose de désuet. Cette culpabilisation que l'Église entretient pour pouvoir dominer sur les consciences des uns et des autres. Et donc non, le péché, il m'arrive comme prêtre et de confesser, d'entendre des personnes qui disent « Écoutez, moi, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. » Je dis souvent « Demandez à votre femme, elle aura certainement toute une liste formidable à vous présenter. » Voilà, parce que je ne vois plus à quel point je ne correspond plus à ce besoin de contempler la face de Dieu, je ne vois pas non plus que j'ai besoin d'être sauvé. On peut s'interroger, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, de dire où est-ce qu'on en est de ce désir de salut, de comme un peu cet homme qui se noie et qui tend la main hors de l'eau et qui espère qu'une main secourable va la saisir pour l'enlever de la mort. Viens nous sauver, c'est ça le salut. C'est quelqu'un qui me tire de l'abîme. Où est-ce que nous sommes toutes confortablement installés dans notre prière, dans notre vie chrétienne, mais sans cette blessure qui nous fait désirer vraiment Jésus, comme celui qui vient nous sauver, et celui qui est, et je trouve ça très beau, pourquoi Jésus est le vrai sauveur? Parce que le salut, doit venir à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. À la fois de l'intérieur parce que c'est à la manière humaine qu'on a besoin d'être sauvé, mais aucun homme peut rendre à l'autre le salut, peut payer la rançon, dit le psaume. Aucun homme, le salut doit venir aussi de l'extérieur de l'humanité, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Oui, nous avons besoin, frères et sœurs, de nous réveiller. Réveillez-vous, hein, dit l'Écriture aujourd'hui, hein, ne vous laissez pas endormir. Alors, quels moyens allons-nous prendre pour réveiller en nous ce désir de contempler Dieu? Quels moyens allons-nous prendre pour vivre dans une certaine modestie de vie? Pauvreté, peut-être le mot est excessif, parce qu'on le sait bien, nous sommes privilégiés par maintes manières, mais au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, justement, où on sent ce manque, et donc on l'offre à Dieu, et on demande, on se tourne vers le Seigneur comme un pauvre qui a besoin. Hein, n'oublions pas, et j'aime bien dire ça dans les préparations au mariage, que le mariage, c'est l'union de deux pauvres qui se tournent vers le Seigneur. J'allais dire, la communauté religieuse, qu'est-ce que c'est sinon aussi des pauvres qui se mènent ensemble pour cheminer vers Dieu? Et la vie communautaire comme la vie matrimoniale, au fur et à mesure des années, nous fait prendre conscience à quel point notre capacité d'amour est limitée et à quel point nous avons besoin d'être sauvés et que tout seul, on ne va pas s'en sortir. Tout seul, on ne s'en sortira pas. Et de nos humanités lourdes qui avancent à pas lents, qui parfois se cherchent et essayent de trouver, voilà, mais viens Seigneur Jésus. Demandons, frères et sœurs bien-aimés, dans ce temps de l'Avent, d'être plus ardents, d'être des ardents chercheurs de Dieu, et de transmettre aux enfants dont vous avez la charge, de transmettre ce désir de Dieu. Lui-même peut venir répondre à cette quête de bonheur qui nous habite. Mais cette quête de bonheur, Jésus en parle dans les Béatitudes. Elle commence par la première qui les résume toutes, celle des pauvres, celle qui se conjugue aussi au présent. Le royaume des cieux est à eux. Frères et sœurs, laissons-nous toucher par la parole du Seigneur. Laissons-nous toucher aussi par notre difficulté, mais ne voyons pas ce manque comme une menace, mais au contraire comme un tremplin. Amen.